Introduction. Quelle est la différence entre apprécier et aimer ? Demande un élève. Quand on apprécie une fleur, on la cueille, et quand on l'aime, on l'arrose tous les jours, répond l'enseignant. Ce dialogue, extrait de Quotes, The Famous and Not So Famous, de Terence M. Dorn, et qui est fréquemment cité, illustre l'une de mes idées préférées au sujet de l'amour. Nous sommes attirés par la beauté. Nous y aspirons et nous la voulons pour nous. Cela correspond à la fleur que l'on apprécie et que l'on cueille. Mais l'attirance, tout comme une fleur qui a été coupée, finit par se flétrir. Puis, nous nous en séparons. En revanche, quand de l'attirance naît l'amour, il faut s'en occuper davantage. Si l'on veut qu'une fleur reste en vie, on ne la coupe pas pour la mettre dans un vase. Au contraire, on la met au soleil, on la laisse en terre et on l'arrose. Et ce n'est qu'en s'occupant régulièrement d'une fleur et en faisant de son mieux pour la maintenir en vie que l'on pourra observer toute sa beauté, qui s'exprime à travers sa fraîcheur, ses couleurs, son parfum et son éclat. On en remarque les détails délicats sur chaque pétale. On l'observe évoluer avec les saisons. On éprouve de la joie et de la satisfaction lorsqu'apparaît un nouveau bourgeon, et on ressent un ravissement quand il fleurit. Nous sommes attirés par l'amour tout comme nous sommes attirés par une fleur. Ce sont d'abord sa beauté et son charme qui nous séduisent. Mais la seule façon d'en maintenir la vie consiste à lui donner régulièrement des soins et de l'attention. L'amour nécessite des efforts quotidiens. Dans ce livre audio, je voudrais vous aider à prendre l'habitude d'aimer. Je vous présenterai des pratiques, des attitudes et des outils qui vous aideront à aimer d'une manière gratifiante au quotidien, saison après saison. On dit que le but premier de la vie humaine est d'aimer et d'être aimé. Nous croyons en l'amour. Il est dans notre nature d'être attiré par les histoires d'amour, de vouloir en vivre et d'espérer que le grand amour soit possible. Mais beaucoup d'entre nous savent également ce que cela fait d'être pareil à une fleur qui a été coupée et confinée dans un vase, avant de faner et de perdre son éclat. Peut-être en êtes-vous passé par là. Ou peut-être avez-vous coupé et jeté quelques fleurs dans votre vie. Il se peut aussi que vous n'ayez pas encore trouvé l'amour et que vous soyez toujours à sa recherche. Ces déceptions pourront se présenter sous différentes formes. Croire que l'on était amoureux avant de se sentir trahi. Penser que c'était de l'amour avant de comprendre que c'était du désir. Être certain que c'était l'amour, mais découvrir que c'était un mensonge. S'attendre à ce que l'amour dure, puis le voir disparaître. Peut-être craignons-nous de nous engager. Choisissons-nous des personnes qui ont cette peur, ou définissons-nous des critères hors de portée, qui ne laissent pas la moindre chance à l'autre. Peut-être pensons-nous toujours à un ex, ou avons-nous accumulé les coups du sort. Mais au lieu de vous laisser avoir par les fausses promesses ou les relations amoureuses insatisfaisantes, au lieu de vous sentir démoralisé ou désespéré, au lieu d'avoir le cœur brisé, mon souhait est que vous viviez le grand amour auquel vous croyez. L'amour romantique est à la fois familier et complexe. Il a été perçu et décrit d'un nombre infini de manières à travers le temps et les cultures. Tim Lomas, psychologue et maître de conférences sur l'épanouissement humain à l'Université de Harvard, a analysé 15 langues et identifié 14 formes d'amour. Dans la Grèce antique, on considérait qu'il en existait 7 formes fondamentales. Eros, l'amour sexuel ou passionné. Philia, l'amitié. Storgé, l'amour familial. Agape, l'amour universel. Ludus, l'amour sans engagement. Pragma, l'amour qui s'appuie sur le devoir ou d'autres intérêts. Et philotia, l'amour de soi. Par ailleurs, une analyse de la littérature chinoise remontant à 500 à 3000 ans en arrière révèle l'existence de nombreuses formes d'amour, depuis l'amour dévoué jusqu'à l'amour sans engagement, en passant par l'amour passionnel et obsessionnel. Dans la langue tamoule, il existe plus de 50 mots désignant différentes nuances d'amour. Par exemple, l'amour qui est une grâce, l'amour au sein d'un couple épanouissant et une fusion intérieure due à un sentiment d'amour. En japonais, l'expression « koi no yokan » décrit la sensation que l'on a quand on rencontre une nouvelle personne et qu'on a le sentiment que l'on est destiné à tomber amoureux d'elle. Tandis que « kokuaku » désigne une déclaration d'engagement amoureux. Enfin, dans une autre langue indienne, le bodo, onsra, fait référence au fait de savoir que son couple est en déclin. Dans notre culture, l'amour est également décrit d'innombrables manières. Si l'on regarde le classement des 50 plus grandes chansons d'amour de tous les temps, réalisé par le magazine spécialisé Billboard, on découvre que l'amour est une émotion de seconde main, Tina Turner, que c'est des montagnes russes, Ohio Players, qu'il donne la gueule de bois, Diana Ross, que c'est une petite folie, Queen, qu'il donne à Beyoncé le sentiment d'être folle et que l'amour s'écoule de Leona Lewis comme du sang. Les films idéalisent l'amour, mais on nous parle rarement de ce qui se passe une fois que le conte de fées se termine. Étant donné toutes les perspectives, tous les portraits et toutes les paraboles au sujet de l'amour qui nous entoure au quotidien, mon intention est que ce livre audio vous aide à créer votre propre définition de l'amour et à mettre en place les compétences nécessaires pour le vivre et l'apprécier tous les jours. À 21 ans, j'ai décidé de ne pas passer mon diplôme universitaire et à la place d'aller dans un ashram dans un village près de Bombay. J'y ai passé 3 années. Je suis devenu moine hindou. J'ai médité, étudié les écritures anciennes et j'ai fait du bénévolat aux côtés des autres moines. Les écrits hindous les plus anciens que nous ayons étudiés s'appellent les Védas. Ils ont été écrits en sanskrit sur des feuilles de palmier il y a plus de 5000 ans. La plupart de ces feuilles de palmier n'existent plus, mais les textes ont survécu. Certains sont même sur Internet. Leur présence et leur portée dans le monde moderne m'ébahissent et m'inspirent toujours. J'étudie les Védas depuis maintenant 16 ans, avec une intensité particulière pendant les 3 années où j'étais moine. Quand j'ai vu la sagesse pratique et accessible qui se cachait en eux, j'ai commencé à répandre ces messages et ce contenu avec des gens du monde entier à travers mes podcasts, mes livres et mes vidéos. Aujourd'hui, une grande partie de mon travail consiste à coacher des individus et des couples et à former d'autres personnes à en faire de même. Ce travail m'a permis de diplômer plus de 2000 coachs qui s'appuient sur un programme que j'ai mis au point et qui trouve ses racines dans les principes védiques. Je me suis servi de la sagesse issue des Védas pour donner naissance aux concepts contenus dans cet ouvrage. Si je me suis tourné vers les Védas, c'est parce que les scribes de jadis qui en sont les auteurs parlent d'amour comme je n'en avais jamais entendu parler. Ce qu'ils y expliquent est simple et accessible. Il s'agit d'un prisme ancien qui donne une perspective nouvelle. Les Védas m'ont fait découvrir des idées fondamentales. L'amour comporte différentes phases. Il est un processus et nous désirons tous aimer et être aimés. En travaillant avec des individus et des couples sur leurs relations amoureuses et sur leur transition en début et en fin de couple, j'ai constaté que ces concepts résistent au passage du temps et sont toujours adaptés à la vie réelle. Et puis, dans des commentaires laissés sous mes vidéos et dans des réactions à mes podcasts, j'ai vu et entendu des personnes qui étaient aux prises avec les mêmes schémas récurrents dans leurs relations amoureuses que j'avais réussi à traiter en faisant appel aux concepts védiques. J'ai pensé ce livre audio afin que chacun puisse accéder à ces concepts et en discuter avec ses amis, sa famille et ses partenaires amoureux. Je me suis appuyé sur les Védas, sur ce qui a marché avec mes clients, sur mes voyages personnels et sur ce que j'ai appris aux côtés des autres moines.